Alors l'héritage est-il injuste ? Eh bien, nous allons poser la question à trois invités ce soir. Commencez par vous, Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole de Lutte ouvrière, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Question rituelle en ce moment qu'on pose à tous les candidats, c'est où en êtes-vous de vos parrainages pour cette élection ?
On y travaille, ça avance bien et je suis tout à fait confiante. Vous savez, nous avons été présents dans toutes les échéances présidentielles et je suis convaincue de pouvoir être candidate.
Il vous reste encore quelques temps. Vous enseignez par ailleurs l'économie et la gestion dans un lycée en région parisienne. Alors j'évoquais en ouverture de cette émission le diagnostic qui a été fait il y a quelques jours de cela par France Stratégie et qui fait notamment ce constat que les sommes transmises par succession et par donation, c'est-à-dire les héritages, ce qu'on appelle de manière un peu globale les héritages, représentent aujourd'hui 19% du revenu des ménages. Ça n'était que 8% en 1980. Est-ce que c'est pour vous un problème en soi, Nathalie Arthaud ?
D'abord, je voudrais rappeler effectivement ma position de principe. L'héritage est-il injuste ? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'héritage est injuste, puisqu'on nous explique que nous naissons tous égaux en droit. En réalité, certains naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, d'autres sans rien. Quand nous parlons d'héritier ou de patrimoine, moi, je fais la différence. Quand je parle d'héritier, je ne pense pas à celui qui a hérité de la maison familiale, durement acquise durant toute une vie de travail. Je ne pense pas à celui qui a hérité du livret A de ses parents. Je pense à Madame Bettencourt qui a hérité d'un empire du luxe et qui a hérité des entreprises, des salariés qui allaient avec. Je pense à Arnaud Lagardère qui n'a eu que le mérite d'être le fils de Jean-Luc. Voilà, je pense à Serge Dassault qui a hérité de Marcel. Je pense à toutes ces grandes fortunes parce que l'héritage, c'est qui pèse dans la société, c'est d'abord l'héritage de ces grandes fortunes qui finissent par accumuler des sommes gigantesques. Parce que la première fortune de France, c'est Bernard Arnault, c'est 39 milliards d'euros. Donc c'est effectivement injuste. Et juste pour terminer, ma position de principe, c'est que je suis pour la suppression de cet héritage-là, c'est-à-dire de l'héritage du capital, des moyens de production, c'est-à-dire des entreprises, des chaînes de distribution, des banques. Mais je suis communiste, c'est-à-dire je suis pour la suppression de la propriété privée des moyens de production. Donc a fortiori, je suis pour la suppression de sa transmission.
Donc en tout cas, je comprends à travers cette première intervention, on va bien sûr débattre tous ensemble, que jusqu'à un certain niveau, l'héritage ne vous semble pas injuste, quand ça a vraiment été le fruit d'un labeur, mais qu'à partir d'un certain niveau, là, il faudrait le supprimer, en tout cas, plafonner du coup l'héritage.
Ce sont deux types d'héritages qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, on a un héritage de grande fortune, d'héritage d'un capital qui donne un pouvoir sur toute la société, le pouvoir tout simplement de bénéficier du travail des autres, de faire travailler des centaines de milliers de salariés. Quand je parle d'un empire industriel, je parle de cela. Donc c'est un pouvoir économique, le pouvoir de faire fructifier son capital à un niveau incroyable. Et de l'autre côté, on parle de quoi ? On parle de maisons familiales, de bibelots qui vont être transmis, de voitures, de petits bouts de terrain. Donc cela n'a absolument rien à voir.
Le rapport de France Stratégie, Nathalie Arthaud, il y a une proposition qui est reprise de l'économiste britannique Anthony Atkinson, qui vient tout juste de mourir il y a quelques jours, qui est celle d'une dotation universelle de patrimoine. Alors ça rappelle un petit peu l'idée qu'il y a en ce moment avec ce débat dont on a parlé d'ailleurs lundi dernier autour d'un revenu universel. Là, ça serait donc une dotation universelle de patrimoine où l'État verserait par exemple un capital au 18e anniversaire de tous les individus. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette idée qui, a priori, contribuerait quand même à favoriser l'égalité des chances, puisque chaque individu aurait un même patrimoine de départ. Ça vous fait rire, ça ?
Mais oui, parce que c'est faux. C'est faux. L'égalité des chances. Voilà, on veut absolument nous faire croire que nous sommes dans une société où il y a l'égalité des chances possible, où il y a un ascenseur social, où avec le mérite, on peut s'en sortir, etc. Ce que vous me dites là, une dotation, ça ne supprime pas le capital, ça ne supprime pas les grandes fortunes qui existent, celles qui ont cours, celles qui prospèrent, qui fructifient. Parce que quand on parle de...
Ça rééquilibre un petit peu
Mais
quand même,
Même pas. Parce que vous voyez, l'héritage là, on se cantonne au patrimoine qui s'accumule et qui s'additionne. Mais le capital ne fait pas que s'accumuler et s'additionner. Le capital, il ne dort pas. Même quand on parle du capital des seniors ou de ceux qui ne dorment pas, il fructifie. Et comment fructifie-t-il ? Eh bien, justement, sur la base du travail des salariés qui, et au travers de l'exploitation. C'est comme cela qu'il fructifie et qu'il augmente d'abord et avant tout. Donc cela ne résorbe pas l'inégalité fondamentale, l'injustice fondamentale, qui est qu'aujourd'hui les inégalités naissent de ce système d'exploitation.
Voilà. Alors j'ai une autre hypothèse, alors peut-être vous voyez, à vous soumettre. Imaginons, juste... Nathalie Arthaud, on supprime, on est aussi là ce soir un peu pour faire des hypothèses, hein. Donc on supprime l'héritage, on le supprime totalement, mais on dote chaque individu, tous les individus, d'une même somme, des parts d'un patrimoine identique. Est-ce que ça aurait davantage de faveur à vos yeux, ou bien est-ce que ça serait pas tout à fait non plus ce qu'il faut faire
d'un patrimoine identique, c'est-à-dire que le capital, la propriété privée, hein, sur Peugeot, sur Michelin, tout ça, on le supprime, on l'annule, etc., etc., et on donne un petit pécule à chacun,
c'est ça. Oui.
Bah, écoutez, même ça... alors, on lance un coup de départ, et puis avec la concurrence, le marché, la loi de l'offre et de la demande, eh bien, très vite, il y aurait aussi des différences, il y aurait des inégalités qui naîtraient. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé au début de ce système capitaliste, parce que ces inégalités-là, ce patrimoine, c'est pas nouveau. Hein, c'est depuis le début. Et d'ailleurs, cette classe capitaliste, c'est une classe d'héritiers qui remonte pas seulement à l'après-guerre en France, mais vous savez, même les 200 familles qui étaient dénoncées dans les années 30, comme le mur de l'argent, parce qu'elle incarnait effectivement le pouvoir de l'industrie et banquier, ce sont les héritiers, beaucoup d'héritiers de ces 200 familles comptent parmi les milliardaires en France aujourd'hui. Donc il y a toute une continuité. Le système capitaliste basé justement sur le marché, la loi de l'offre et de la demande, la concurrence, forme des inégalités. Moi je suis pour une société que l'on organise collectivement, que l'on organise la production collectivement en se répartissant le travail, en réfléchissant à ce qu'il faut produire, quels choix on fait d'investissement pour répondre aux besoins de tous. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait en passer par la propriété privée des moyens de production. Je pense que tout ça devrait pouvoir être fait de façon collective et je suis sûre qu'on s'en sortirait mille fois mieux. C'est vrai que moi, toutes ces discussions là, très théoriques sur le revenu universel, sur la dotation universelle, j'ai toujours l'impression que finalement, c'est une façon de donner l'aumône à la population, à commencer par le monde du travail, parce que tous ceux qui dirigent expliquent qu'on ne peut pas donner du travail à tout le monde, que le travail que l'on peut donner, on ne peut pas le payer bien, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est ça, et ça me révolte, je dois dire, parce qu'en réalité, il y a bien sûr les moyens que chaque individu, femme et homme, ait accès à un travail et à un salaire décent, que tout ça, c'est justement une question d'organisation de la société, c'est une question qu'on répartisse le travail entre tous, et donc qu'on limite effectivement les profits qui vont ensuite édifier ces patrimoines immenses dont on dit que finalement ils ne servent à rien pour l'économie, etc. etc. Donc ce sont des choix, effectivement, mais ce sont des choix de classe, en fait. Et moi, c'est pour ça que je n'attends rien de toutes ces réformes qui sont des...
Voilà, même les plus audacieuses, aujourd'hui en tout cas, vous semblent très très en deçà.
Beaucoup de long fumage électoral en ce moment, ça c'est sûr, ça c'est sûr, alors qu'on refuse aux travailleurs, si vous voulez, juste leur droit. Moi, je suis candidate, effectivement, dans cette élection. Je dis qu'à moins de 1 800 euros par mois, on ne peut pas vivre sans avoir tout à compter. C'est pas une vie décente, 1 800 euros par mois. Et qu'est-ce qu'on m'oppose ? On m'explique que tout ça, c'est de l'utopie. D'espérer payer effectivement tout le monde un minimum de 1 800 euros par mois. Donc voilà par quoi il faut commencer, par augmenter les salaires, par faire que chacun ait accès à un emploi en répartissant le travail au lieu de le concentrer pour augmenter les profits. Donc voilà comment une société normalement constituée devrait fonctionner, avec y compris cette idée que c'est ensemble qu'on décide de à quoi servent les entreprises, ce qu'elles produisent, comment on investit tout ce capital.